Moi, je suis en train de me au Cachan oriental. J'ai réduit totalement ce que
j'ai fait. Moi, c'est Céline de Bourgogne au Cachan là. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'ici de maîtrise du vent, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous. C'était hier, mercredi, que le gouvernement Matata Mponyo a été investi à l'Assemblée nationale par un vote pour des près de 318 voix sur les 388 députés nationaux réunis à l'hémicycle du Palais du Peuple. Bien avant l'investiture, le Premier ministre avait fourni des explications aux députés nationaux quant à certaines préoccupations concernant son programme d'action. Ce programme qui s'est fixé comme objectif la poursuite des réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État, la consolidation de la stabilité macroéconomique et l'accélération de la croissance et la création d'emplois, la poursuite de la construction et la modernisation des infrastructures de base, l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population, le renforcement du capital humain et l'éducation à la citoyenneté, ainsi que le renforcement de la diplomatie et la coopération au développement. Que pensez-vous de ce programme du gouvernement? Nous en parlons avec M. Christophe Lukungula, député national de la majorité présidentielle et président du parti politique Mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement. Et nous aurons aussi un point de vue de l'ENS, moyen expert en économie, en ce qui concerne le volet investissement dans ces gouvernements. Marie-Chantal Lumba, qui se foutent sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Willem Lungamba et Nicole Ngaka, en assure la supervision. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Vous pouvez également réagir en nous déposant un commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Ces commentaires pourraient être récupérés et élus devant ces micros comme au même titre que les interventions en direct pour ceux-là qui sont déjà en ligne comme Roger Kitaïsiro. Mais bien avant de donner la parole à Roger, nous avons en ligne, comme je l'ai dit tout de suite, monsieur Christophe Lotundula, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de partager avec les auditeurs les préoccupations par rapport au programme du gouvernement. Mais je vais d'abord vous inviter à écouter ce que les auditeurs pensent, parce qu'ils ont le point de vue partagé. Il y en a aussi qui ont des questions à poser, des inquiétudes. Nous allons les partager ensemble tout au long de cette émission. Et nous allons de temps en temps revenir à vous pour que vous puissiez peut-être donner un éclairage auprès des auditeurs sur une question qu'ils ne maîtrisent pas, ou même une question qui peut être posée directement. Nous avons Roger Aïssiro Gauthier qui est à Kananga, au Kassa Occidental. On commence avec vous, Roger. Vous êtes à Aïssiro en province orientale. Bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes et bonjour chers auditeurs de l'émission Parole aux auditeurs.
Vous avez suivi l'introduction, nous avons parlé des objectifs d'une manière globale hein, que le gouvernement s'est fixé pour réaliser à l'horizon 2016 et peut-être qu'on pourra entrer en profondeur au fur et à mesure qu'on avance, mais vous avez aussi suivi à travers peut-être le média le point clé du programme du gouvernement. Vous êtes à Issiro, que pensez-vous de cela?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mon intervention est fondée sur un constat. C'est que le politicien congolais est généralement réputé de façon presque légendaire comme étant un excellent discours et concepteur de belles théories, souvent creuses, malheureusement. Donc, je l'ai dit, entre le manifeste de l'enseigné de la période Mobutu et les discours que tiennent les politiciens aujourd'hui, il n'y a qu'un pas. Donc, il est souvent malheureux de constater qu'il y a un écart énorme entre les discours et la pratique. Citons par exemple la tolérance zéro. Comme disent combien des ministres ou des DG ont été mis en prison, pourtant la plupart des hauts cadres sont responsables d'hémorragies carabinées dont souffre quotidiennement la tête de l'État. Donc, pour moi, sans évidemment tomber dans le pessimisme, le problème de Matata Mponyo s'est dit déjà attendu. Où les gouvernants promettent toujours un ciel et une terre au peuple. Mais pendant la mise en œuvre de ce programme, le peuple est complacé au devant de la scène au début, donc il finit par ne plus retrouver son compte et devient ainsi un enfant pauvre de l'abandon. Donc, pour terminer mon intervention, je pense que ce programme paraît être trop ambitieux et manque un chronogramme. et autres indicateurs qui pourraient permettre de l'évaluer en mi-parcours. Donc, il manque aussi, à mon avis, certaines mesures d'accompagnement telles que des audits, soit au niveau structurel ou intermédiaire, ou aussi au niveau de la base, ainsi que des mesures, des pénalités contre les accès du gouvernement contrairement à ces programmes.
Merci.
C'est un peu en bref ce que je dis par rapport à...
Voilà, merci Gauthier, au-delà du fait que vous avez relevé ce que vous pensez qui doit être complété dans ces programmes, où vous avez insisté sur la mise en pratique, n'est-ce pas, des promesses à travers l'évolution de l'histoire politique de la RDC. Vous avez évoqué le manifeste de l'Ancelé et tous les autres programmes politiques, mais vous pensez qu'il se pose un problème, c'est que cela puisse être concrétisé. Mais dis-moi, vous pensez que pour ce programme, il fallait qu'il y ait le chronogramme d'évaluation, mais aussi le mécanisme d'audit et des pénalités pour ceux-là qui pourraient aller au-delà de ce qui a été décidé au niveau du programme. Merci beaucoup, Roger. Vous êtes à Isiro. Gauthier, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Je salue tous les auditeurs de la radio Kappé.
On vous écoute, Gauthier.
Oui, mais c'est Pierrot, bon. Je vais paraphraser quand même certains politiciens qui ont appelé le programme du Premier ministre comme sa très bonne intention. Je sais que c'est pas difficile chez nous. Nous n'allons pas juger le Premier ministre par ses intentions. Mais nous attendons qu'il le mette en œuvre. C'est clair. Ça, ce n'est pas des actes qu'on a à juger. De toutes les façons, je sais que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Je ne pense pas que pour cette fois-ci, il aura le prérogatif du pouvoir qu'il a. Parce qu'il ne faut pas qu'on se plaindre, que non, voilà, on a pour se plaindre qu'on autrefois que le Premier ministre a eu, bon, en me référant à la législature passée, parce que le Premier ministre, le Premier ministre, se voyait en train de travailler avec certains conseillers à la présidence. Donc, on dirait que...
Voilà, le téléphone n'a pas permis à Gauthier de pouvoir terminer son propos, mais du moins, lui, il pense qu'il faudrait attendre, voir comment le Premier ministre pourra travailler, le gouvernement pourra mettre en œuvre le programme et pouvoir évaluer après. Mais du moins, il s'inquiète pour savoir si l'actuel gouvernement ne pourra pas se plaindre après qu'il y a eu peut-être des interférences, comme on l'a vu dans la législature passée. Mais malheureusement, Gauthier n'a pas pu terminer parce que la ligne téléphonique avec Kananga s'est coupée. Nous avons Lumago qui est à Boutembo, au Nord Kivu. Bonjour, Lumago.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, Lumago, par rapport au programme du gouvernement.
Oui, je trouve que le programme du gouvernement semblerait être très bon s'ils arrivent jusqu'à l'accomplissement de leur objectif.
Mm-hmm.
C'est pourquoi, moi, je trouve qu'il a dit, selon le Premier ministre, Madame Fonio, il a dit prévention de la condition sociale de la population congolaise. Alors moi, je veux dire que cette amélioration, si il met ça, comme ce qu'il a dit, sur tous les points, par exemple pour l'état social, vraiment, ça sera un peu bien pour qu'il met ça en pratique. Parce que vous trouverez que critique à RDC, l'état social n'est pas vraiment pris à charge.
Mm-hmm.
Je trouve l'état de l'armée, je trouve l'état aussi de la santé et de l'éducation. Si il met ça, en pratique, à ce moment-là, nous allons adopter, nous allons accepter que ce qu'il a fait, c'est vraiment une chose de la réforme. Alors, si il ne met pas ça comme ce que nous avons vraiment indiqué, il n'y aura jamais ce qu'on appelle la réforme. À ce moment-là, nous serons déjà trop par sa part. C'est pourquoi nous voulions demander vraiment à monsieur le Premier ministre, Matata Konyo, de mettre ça en pratique pour que nous puissions avoir un gouvernement qui était intéressant. Il est un gouvernement comme le gouvernement de la France. On a fait trop simplement les enseignants par exemple. En disant que les gens qui ont été changés, les nombreux qui ont été difficiles de contrer. Mais on trouve, selon moi, c'est que nous voyons vraiment ce qu'il serait. Ce n'est pas ce que la population a très désiré. Mais
voilà.
Je voudrais que, comme une suggestion, s'il y a moyen, si c'est un RDC, il fallait qu'on puisse parvenir maintenant à payer tous les pour les diplômés soient licenciés avec un même prix. À ce moment, ça va dire que nous allons accepter qu'il y a une réforme et il y en aura quand même un document pour dire l'amélioration de la condition de vie pour tous les Congolais.
Merci.
On n'a pas cette amélioration. Si on n'a pas
cette
population avec les mêmes prix, on risquerait de dire seulement que l'amélioration, mais on va faire l'amélioration pour les députés seulement. Mais si les enseignants doivent souffrir eux-mêmes de la santé, pourquoi pas les ministres sont en train de faire des bêtises parce qu'ils ne sont pas des.
Voilà, merci, merci, Mago. Voilà.
Je suis vraiment faire des sous, que tout soit mieux, et améliorer surtout la condition des enseignants, les militaires et la santé. À ce moment, nous aurons quand même une amélioration qui est très positive.
Merci, merci Mago. Voilà, merci beaucoup. Vous avez insisté sur la concrétisation du programme, hein, parce que le fait d'en avoir, c'est une chose, mais il faut concrétiser tout cela en mettant bien sûr plus l'accent sur l'amélioration du quotidien de vie de la population. Vous avez évoqué les cas des enseignants, des militaires, des policiers, mais aussi la santé, en insistant beaucoup sur l'harmonisation du barème salarial à travers le pays. Merci, Lumago. Vous nous avez appelé de Butembo, c'est dans la province du Nord. Vous, les auditeurs de Butembo, nous suivent sur 92.9 FM. Nous retournons ici à Kinshasa. Emergide, vous êtes sous les antennes, bonjour.
Oui, bonjour, je salue tous les auditeurs de Radio Kapi.
Vous avez suivi les uns et les autres qui insistent beaucoup sur le fait de pouvoir concrétiser les contenus du programme, c'est ça, hein, c'est que les trois premiers auditeurs ont pu évoquer. Quel est votre point de vue?
Sans problème. Moi, mon problème en est-il. Qu'est-ce que nous voulons chez nous au Congo? Nous voulons un changement. C'est bien de présenter un discours, c'est pas bien. Mais nous avons assez avec des discours légendaires. C'est pas à chaque temps qu'on doit aller présenter un discours au niveau de l'Assemblée et on va encore aller manquer de l'application. On est là en train d'accepter d'écouter ce que le gouvernement est en train d'expliquer à la population congolaise. Mais nous, on a besoin de l'application, d'un changement au niveau de l'État congolais. C'est très bien. Quant à moi, je vois que comme il n'y a pas de sanctions, comme il n'y a pas le respect de la Constitution au niveau de la République démocratique, on doit toujours aller continuer à présenter des discours légendaires devant la population et dire ce qu'on veut et à ne pas réaliser un jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici par là? Si on voit très bien même à l'article 10 de la Constitution, il dit très bien que tout Congolais sont égaux devant la loi. Et on a droit à une égale aux protections de la loi. Mais dis-moi, un ministre qui a détourné, un ministre qui a volé, mais il n'y a pas de sanction pour lui. Alors, on va toujours continuer à présenter des discours qui ne seront jamais réalisés au Congo. Et on doit toujours continuer à présenter toutes sortes de pensées qui viennent de vous-même à ne pas réaliser ça un jour. Moi, quant à moi, je vais dire ceci. On doit commencer à sanctionner. Il y a une cour de compte qui est très bien établie. La cour de compte doit contrôler le Parlement. La cour de compte doit contrôler l'État congolais. Une obligation est prévue par la Constitution que la cour de compte doit être là pour contrôler le Parlement.
Et sanctionner, voilà. Et proposer, voilà.
Et sanctionner aussi. Alors, moi, je pourrais dire ceci. Même si, comme j'avais dit très bien qu'il n'y a pas respect de la Constitution, si on voit très bien même au niveau de l'article 98 de la Constitution, je ne sais pas si c'est ce qu'il n'y a pas beaucoup à faire des temps et l'article 99. Il doit tout respecter ce qui est prévu par la Constitution. Les membres du gouvernement, il doit tout respecter tout ça. Alors, si nous sommes là, en train d'écouter les gens qui sont en train d'expliquer à la population leurs discours et les discours qui ne seront jamais réalisés. Alors, quel est l'essor de la population?
Voilà, merci, Emergide. Vous avez beaucoup martelé sur le fait qu'on doit auditer, que ce soit toutes les institutions doivent être auditées. Vous avez évoqué la Cour des comptes et vous insistez sur le fait que les gens doivent être sanctionnés, tout le monde doit être égal devant la loi et c'est ce que vous attendez vraiment avec ce nouveau gouvernement et surtout dans l'exécution de ce programme. Nous allons écouter André qui est à Lukanga. Lukanga, c'est dans les territoires de Lubero et puis on va donner la parole à notre invité. André, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. Notre invité qui est sur le plateau.
On vous écoute, André.
J'ai une grande préoccupation que je préfère donner à tout le monde qui habite sur ce beau pays, le Congo. Voici. Le programme pour la modernité du gouvernement est une ambition du chef de l'État et de son gouvernement. Il est de même que les autres précédents. C'est une distraction que le peuple
est en train d'avaler. Voici quelques quatre points qui vont faire échouer ce programme. Le programme, soi-disant, de la modernité.
Oui, André, ce que vous dites est important, mais on a des soucis avec la ligne téléphonique. Essayez de vous déplacer un tout petit peu pendant que vous nous parlez, oui.
Si, si. Il y a l'insécurité ici, au nord et sud de Kiev. Que préparent les dirigeants? Deux.
Oh là là là, vraiment. Oui, voilà, le temps que l'organisation arrange avec André, parce qu'il était sur le deuxième point, il a d'abord évoqué l'insécurité, le deuxième point. Pendant ce temps, nous lisons le message d'espoir Kabambaki Takanaga qui dit ceci: le peuple congolais est fatigué de tous les vocabulaires, nous avons besoin d'un réalisme concret, mais tant que la politique reste la même, nous croyons avec réserve à l'exécution du programme du gouvernement. Tika Kalonji de Lubumbashi dit ceci: le programme du gouvernement est bon, mais ce qui compte le plus, c'est la pratique. En premier lieu, nous ne pouvons qu'observer, puis nous aurons quoi dire dans les jours qui suivent l'investiture. Dieu aimé, Wasingia dit ceci: si on met en pratique, je crois que le Congo aura changé. Alors, j'encourage le Premier ministre surtout à mettre en pratique les contenus de son programme. Et je crois le temps qu'on puisse récupérer André, on va revenir pour donner la parole à notre invité qui va aussi commenter le point de vue de ces premiers groupes d'auditeurs par rapport au programme du gouvernement.
Parole aux auditeurs.
Oui, monsieur Christophe Tundula, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Il y a un mot qui est revenu, c'est la concrétisation, n'est-ce pas, des intentions qui sont dans le programme du gouvernement. Il y a aussi les auditeurs qui sont revenus par le fait qu'ils ont vu dans le passé qu'il n'y a pas eu vraiment de sanctions pour la médiation. Et tout cela, comment peuvent-ils vivre tout cela par rapport à ce nouveau programme du gouvernement qui a été adopté, le gouvernement qui a été investi par l'Assemblée nationale hier?
Oui, je comprends la déception et le scepticisme de nos compatriotes concernant le programme présenté par le gouvernement Matata. Je voudrais dire que moi-même, et de manière générale, et de tous Congolais, même dans la majorité, nous partageons les mêmes préoccupations. Mm-hmm. Sauf que nous qui sommes au pouvoir, comme majorité, nous avons en plus l'obligation, justement, de rencontrer ces préoccupations pour qu'enfin les institutions soient crédibles et que le peuple y trouve son compte. Mais je voudrais dire ceci. Tout ce qu'ils ont soulevé est pertinent. C'est vrai, mais on ne peut pas y répondre sans travailler. On reproche au gouvernement de faire un chapelet des tensions. Mais le programme, en fait, un programme présenté ne peut être que l'inventaire, la présentation de ce qu'on compte faire. C'est au moment de la réalisation que ce qu'on appelle aujourd'hui chapelet des tensions aura un contenu concret, un contenu réel que nous aurons apprécié par rapport à l'objectif global de moderniser notre pays. Donc, de ce côté-là, ce discours-là, tout en reconnaissant sa pertinence, il ne peut être à ce stade que celui-là. Et on ne peut pas non plus reprocher à un gouvernement de parler et dire au peuple, à travers la représentation nationale, ce qu'il doit faire. Il faut tout de même souligner qu'on n'est pas au gouvernement un surmuet. Le gouvernement de la République, le pouvoir de manière générale, doit écouter, doit entendre toutes les demandes politiques et sociales formulées par la nation et de manière plus précise par le peuple et y répondre par des actes, mais aussi par des explications. Donc moi, je crois que là aussi, nous nous comprenons. Concernant l'audit, oui, en effet, il faut évaluer. Moi, j'ai toujours dit que lorsqu'on marche, comme disent les Chinois, ngoulou-ngoulou, on ne rationalise pas et on peut se cogner la figure contre le mur. Il faut évaluer. C'est très intéressant, et nous l'avons proposé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, que le Premier ministre mette en place une structure pour nous, à l'Assemblée, d'évaluation. D'ailleurs, à l'Assemblée, nous avions proposé, au niveau de la majorité, on va voir ça rapidement, la création d'une commission permanente d'évaluation
et de prospective qui nous permettrait chaque fois de savoir combien de lois avons-nous votées ou combien de recommandations avons-nous fait et quel en est l'impact. Vous voyez, qu'est-ce qui a été exécuté, qu'est-ce qui n'a pas été exécuté. Et de manière plus précise, la fois dernière, nous avons voté beaucoup de lois. Sur le domaine économique, il y a eu la réforme du portefeuille. Il faut qu'on sache où est-ce qu'on en est pour cette réforme-là. C'est absolument nécessaire. Nous avons voté des lois pour doter l'État de ressources. La TVA, le fonds d'entretien routier. Nous avons une taxe augmentée. C'est le nombre d'impôts et qu'il arrive de certains impôts. Il faut qu'on le sache. Ça aussi, c'est légitime et je pense que le président du gouvernement a pris ce message-là et il porte
voilà.
Alors, tout le plan social, il faut dire clairement aux Congolais, je me souviens de le dire, nous n'allons pas nous mettre à nous expliquer la pauvreté. Nous avons un budget de 7 milliards, qu'il soit totalement couvert en termes de recettes ou non, mais c'est un budget de 7 milliards de dollars. Si ce n'est pas de 7 milliards de dollars qu'on peut redresser la situation. Il faut travailler. Le social n'est possible que tant qu'il y a la croissance. La croissance, c'est-à-dire l'augmentation de la production intérieure qui nous permet de satisfaire à nos besoins internes de consommation courante et d'investissement. On parle de l'emploi. Il n'y a pas d'emploi qui vaille la peine sans formation et investissement. Et tout ça demande aussi de l'argent. Donc, d'un côté, il faut une politique salariale de justice, une politique salariale équilibrée qui permette à chacun d'avoir un petit quelque chose dans le peu que nous avons, une politique salariale qui ne favorise pas la naissance d'une autre classe de dinosaures ou qui ne favorise pas le développement des zones salariales. Tout ça fait favoriser, il nous faut ça, c'est très vrai. Ceux qui ont la charge d'amener le Congolais au travail et de créer la prospérité nationale, ils doivent aussi sentir le poids de la crise. Voilà. Mais en même temps, je voudrais insister sur ça, il faut qu'on travaille. Ce n'est pas seulement l'affaire de Matata et de son gouvernement, c'est l'affaire du cantonnier, c'est l'affaire du chef coutumier, c'est l'affaire du comptable, du commerçant, et c'est tout le monde, il faut travailler. On ne sera voilà. pas riche en discutant la misère.
Voilà.
Là, on va. Je dois dire.
Oui. Oui. On va ouvrir la ligne parce qu'il y a André qui était déjà en train de qui parlait. Malheureusement, la ligne téléphonique nous a posé des petits soucis. André, vous êtes maintenant sur les antennes de nouveau. Oui. Vous aviez évoqué 4 points qui vont faire à ce que le gouvernement ne puisse pas faire exécuter son programme. Vous avez évoqué le premier point, c'était l'insécurité. Et puis, le deuxième point, pour que vous puissiez terminer, oui.
Le deuxième point, c'est l'économie de la RDC qui est basée que sur l'importation et l'exportation.
Mm-hmm.
Et le troisième point, manque d'un état de droit. Et vous savez que la Bible dit que la justice élève une nation.
Mm-hmm.
Et puis, quatrième, c'est l'institutionnalisation de la gestion par le gouvernement, par tous les gouvernements de M. Joseph Kabila. Alors, ces 4 points montrent que ce programme du gouvernement actuel, c'est une utopie.
Voilà, oui, merci André. Merci André, vous avez dit les 4 points, mais aussi, nous n'oublions pas que dans le programme du gouvernement, effectivement, le Premier ministre prévoit ces 4 points. Il y a des réponses par rapport à l'insécurité, il y a des mesures qui sont prises. Au niveau, qui sont annoncés bien sûr hein, par le Premier ministre à la lutte contre l'insécurité, l'encadrement des forces de sécurité, leur modernisation aussi. Il a aussi effectivement parlé des problèmes de la croissance économique, comment il faudrait créer des richesses internes, parce que M. Christophe Otundé venait d'en parler. Il y a le problème de l'état de droit, la lutte contre l'impunité, mais la corruption, mais aussi le respect des droits humains. Et enfin, parce que vous avez parlé de l'institutionnalisation de la négation, il a pu aussi parler de la lutte contre la négation, bien sûr, hein, en mettant en place des mécanismes des tribunaux pour juger la fraude et les détournements. Voilà des mesures qui sont prises, mais il reste, comme l'a dit notre invité et d'autres auditeurs, de voir comment tout cela peut être concrétisé pour que l'action puisse être sûre. Merci de ces propositions. André, vous êtes à Lukanga, c'est dans les territoires des libéraux au nord de vous. Nous avons Ernest qui est à Matavi, au Bas-Congo. Bonjour Ernest.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi, il y a beaucoup d'inquiétudes aussi, mais il y a aussi ceux qui gardent espoir, comme notre ami Gauthier de Kananga, mais aussi Dieu aimé ou Angisha, qui pensent qu'il faudrait d'abord donner les temps au temps, une déclaration, le programme, et voir maintenant comment on peut mettre en pratique ce programme et qu'il puisse se résoudre et répondre aux besoins de la population. On vous écoute, Ernest, par rapport à ce que les autres ont déjà dit.
Merci bien. Le premier intervenant a parlé même des manifestants d'Antélé. Et lorsque nous parcourons les manifestants d'Antélé jusqu'à la conférence nationale souveraine, jusqu'à ce jour, nos professeurs qui sont dans toutes nos institutions savent vraiment réfléchir et produire des textes. Et ce n'est pas là le grand problème. Aujourd'hui, nous remarquons le gouvernement qui vient de présenter le programme. C'est un programme normalement d'une année, mais un programme qu'on présente au mois de mai. Donc, ce gouvernement n'aura pas 12 mois d'exercice. Donc, c'est un problème. Et nous notons que c'est une façon de nous constatons une certaine improvisation pour les affaires de l'État dans notre pays. Nous ne sommes pas pessimistes, mais nous voulons le bien pour notre pays. Mais nous réalisons qu'il y a trop d'improvisation au sommet de ce qui dirige ce pays. C'est comme ça que les choses ne vont pas bien tourner. Comment on va mécaniser des recettes? Pendant que dans le gouvernement de l'honorable aujourd'hui, on a vu. Il a été accusé des gouvernements parallèles qui bloquaient ce qu'il avait comme idée. Donc, ce gouvernement parallèle, est-ce que le Premier ministre a-t-il déjà interrompu ça? Ils ont déjà démantelé ce circuit. Sinon, ce sont pour les bonnes intentions, seront vraiment les intentions pour notre pays, mais en pratique, ce sera absolument rien. Aujourd'hui, le gouvernement, quel est notre président s'organise en termes de syndicats pour se défendre leur métier de profession. Le gouvernement s'autorise de concevoir une autre structure de revendication pour expliquer cela. Donc, voilà que dans ce mécanisme-là, on n'aura jamais la conviction de tout le monde pour s'adhérer à ce programme et que le programme national du gouvernement, qui est un gouvernement national, puisse adhérer le force national. Sinon, c'est un promis. Et lorsqu'on voit même la défense de ce programme au niveau de nos élus à l'Assemblée nationale, qui est un peu appelé le forum, mais on sait qu'ils ne vont pas, ils seront là pour applaudir, sans pourtant aider d'une façon pertinente le Premier ministre à réussir son action pour le bien du peuple congolais. Voilà pourquoi les réserves au niveau de la communauté internationale sur le financement de certaines actions seront difficiles et il y aura des bégayements et des bémols pour que les gens viennent en aide.
Merci, Ernest, vous avez évoqué le fait qu'on ait ce gouvernement avec beaucoup de retard. On est déjà au mois de mai. L'année est déjà consommée en partie. Le gouvernement n'aura pas vraiment 12 mois pour travailler comme il faut. Vous avez aussi évoqué le fait qu'on a beaucoup parlé lors de la mandature passée du gouvernement parallèle. Est-ce que tout ce circuit, est-ce qu'on a fait les nettoyages sur tout ce circuit d'interférence politique pour permettre à ce gouvernement de travailler? Mais vous avez évoqué également la responsabilité de l'Assemblée nationale. Vous avez dit que les gens ne puissent pas applaudir, mais qu'il puisse aider les gouvernements à travailler, parce que nous avons un député national sur les antennes, nous pourra aussi évoquer ce qu'est la responsabilité de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'action du gouvernement. Merci. Ernest Fidèle, vous êtes à Kindu, au Maniema. Bonjour Fidèle.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Nous avons tous suivi le programme du gouvernement de Matata Fone, monsieur le journaliste. C'est bon, espérons que cette fois-ci, ça va tenir. Mais on se demande dans ce gouvernement, est-ce que le Premier ministre a prévu pour son programme? Le programme du gouvernement n'était pas cadré, chronométré et chiffré. D'où j'interpelle les honorables députés d'être honnêtes et d'agir au nom de la population et pas pour les intérêts politiques. Vous vous souvenez, dans la législature passée, monsieur le journaliste, combien de députés qui sont revenus encore au niveau de l'hémicycle? À part le quelques-uns rescapés, on sait comment ils sont là. Mais ils continuent toujours à produire quelque chose qui n'est pas à produire. Je suis vraiment déçu. Et je demande cette fois-ci, on va beaucoup s'investir pour notre cause qui est l'intérêt suprême de la population.
Voilà, merci. Merci Fidèle. D'ailleurs, je le programme sur la table. Je crois que les questions autour du chronomètre, autour des chiffres ont été aussi évoquées par les députés nationaux. Le Premier ministre a pu donner des explications hier avant, bien sûr, la procédure de l'investiture. Il y a quand même cela qui va de 2012 à 2016 avec le taux de croissance qui doit être augmenté à 15% d'ici 2016. Il y a aussi le taux de desserte en électricité en eau. Voilà, qu'on ne sera pas entré dans le détail dans cette émission pour sortir chaque élément, mais vous y revenez encore pour rejoindre Ernest qui dit qu'il faudrait que les députés nationaux puissent prendre leurs responsabilités, parce qu'on sait bien sûr qu'on, lors de la législature passée, on a accusé les députés nationaux d'avoir pas assez contrôlé les institutions, que ce soit les gouvernements, d'autres institutions. On n'a pas senti aussi que même les recommandations de députés, que ce soit des sénateurs, ont été respectées au niveau du gouvernement. Mais vous revenez encore sur leurs responsabilités. Merci beaucoup. Nous avons Kabachia qui est à Bukavu. En attendant, on lit les messages de Christian Kangano qui dit ceci: le recensement de la population devrait être parmi les priorités de ces gouvernements. À ma grande surprise, il ne figure même pas dans son discours des 64 pages. Comment voulez-vous créer des emplois sans connaître le nombre exact de la population congolaise? D'ailleurs, ce cas a été évoqué hier par une intervenante, députée nationale, Jeannette Kabila, qui est revenue sur ça pour savoir comment on peut chiffrer, bien sûr, la création d'emplois sans recenser la population. Le cas a été évoqué. Maxime Akemane dit ceci: une litanie de bonnes intentions, car il n'y a pas une chronologie permettant de faire une évaluation. Cela a été évoqué avec l'invité. Donnant Michel Akitaki Sangani dit ceci: tant que la sécurité nationale n'est pas garantie, vains seront les efforts de diminuer la pauvreté et la croissance économique, car le peuple vivront le malheur de l'insécurité comme leur pain quotidien. Il a raison, André. Un cas aussi évoqué par le Premier ministre lui-même. Gédéon dit ceci: voyons voir si le gouvernement ne pourra pas être aveuglé par l'argent et ne rien faire. Sinon, nous encourageons le gouvernement à aller de l'avant. Kabacha, vous êtes à Bukavu, au sud de Kivu. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, monsieur.
Je voudrais intervenir sur le problème-là des indicateurs là où je suis vérifiable. Parce que nous savons que pour avoir un programme, il faut que ce programme soit inscrit dans un plan. Or, je ne sais pas quel plan que le Congo a aujourd'hui. À mon avis, Brésil, je vois qu'il n'en faut pas même de plan d'ici 2020 ou 2030. Il n'y a pas de plan. Alors, le programme, comment est-ce qu'on peut traiter un programme sans plan? Et quand on a un programme, donc, il y a des problèmes. Et ces problèmes, donc, c'est un écart entre l'idéal et ce qu'on retrouve. Or, à mon avis, ce que j'ai remarqué, il n'y a pas eu de discussion là des problèmes. Donc, on ne connaît pas là où on doit aboutir. Donc, l'objectif. Alors, on doit chercher des objectifs quand il y a des problèmes. Alors, pour avoir des objectifs, pour atteindre des objectifs, il faut avoir des moyens financiers, des moyens matériels, des marchés, même les moyens temporels, les personnels. Et dans cela, on doit même inscrire les stratégies et les politiques. Tout cela, on n'a rien vu dans le programme de M. Matata Ampone. Or, à ce que je sais, Matata Ampone, ce n'est pas de n'importe qui. C'est un grand expert en tout cas, et il connaît très bien ce qu'il a fait. Donc, il a dressé ce programme sciemment. Or, quand on a fait sciemment, tout en étant un intérêt de Renault, donc il y a tendance de se retirer, de se réfugier au contrôle. Donc, il y a déjà fraude au départ. Et les objectifs doivent être toujours, les objectifs d'un programme doivent toujours être spécifiques, mesurables, accessibles et réalisables dans un temps bien déterminé. Or, il n'y a pas de temps, il n'y a pas. Donc, ce n'est pas vraiment mesurable. Or, quand ce n'est pas mesurable, donc il n'y a pas des indicateurs objectivement vérifiables. Et à base desquels le Parlement partiront pour le contrôle et l'évaluation du programme. Et sans quoi donc le suivi n'est plus assuré.
Merci, voilà. Merci, Kabacha. Voilà, nous allons. Oui, Kabacha, nous allons donner d'ailleurs la parole à notre invité qui est député national, parce que vous avez évoqué les contrôles par rapport à l'évaluation. On pourra aussi lui demander si, en regardant le programme, parce que le député a eu le temps de le scruter, de débattre là-dessus, est-ce que toutes ces inquiétudes de la population par rapport au chronomètre, au temps, aux objectifs chiffrés dans le temps et dans l'espace, est-ce qu'ils ont cette impression-là au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qui doit être fait pour corriger? On pourra lui accorder la parole juste après l'intervention de Jean-Paul qui est à Bounia. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour, monsieur l'animateur. Je suis très content de vous suivre comment vous débattez le problème du plan ou des problèmes du nouveau gouvernement. Ce qui doit se poser normalement, c'est que le programme du premier ministre essaie ça s'est articulé sur quelle vision, parce que le chef de l'État, le premier ministre travaille toujours avec le chef de l'État, il marie en moi son programme par rapport au plan d'action que le chef de l'État avait déjà prononcé pendant
la campagne. Oui.
Et à l'issue de la campagne du président de la République, nous, moi personnellement, je n'ai pas senti son plan d'action ou bien son plan de société. Est-ce que je ne sais pas si le premier ministre va réussir par rapport à son programme aujourd'hui, alors qu'il semble aller à l'encontre de l'entendement du président. Ça, c'est des points. Si je morcelle au moins le programme du premier ministre, il y a nécessairement la sécurité qui est épinglée, il y a le paiement, donc il y a l'emploi, et ainsi de suite. Alors, je me pose la question, tout le programme du premier ministre, c'est comme si ça a été déjà prononcé avant même que lui soit nommé, et par d'autres premiers ministres qui sont passés avant lui et gérés par le président de la République, Kabila. Et je me demande par quel moyen ce premier ministre actuel doit réussir à son programme. Si je prends d'ailleurs ici la sécurité, on disait que la sécurité depuis Adolphe, l'ancien premier ministre ici, on parlait de la sécurité, mais la sécurité par rapport à ces seigneurs de guerre qui sont de terreur à l'est, nos confrères, nos chers, nos concitoyens, mais là-bas. Nous sommes des jeunes, nous voulons avoir quand même la paix dans notre pays. Mais le premier ministre qui entre aujourd'hui, est-ce qu'il est sûr qu'il va réussir à combattre au moins l'insécurité qui est à l'est?
Voilà.
Alors que c'est Thomas, c'est celui qui pose des terreurs là-bas. Il a été appelé à tout ça, il a mangé avec les autorités là-bas, ils n'ont pas pensé à l'arrêter. Maintenant, ils vont penser à l'arrêter alors qu'il est tout proche de traverser l'autre côté. Tout ça, c'est sans demande. Nous, les jeunes, on a assez.
Voilà,
on demande au premier ministre.
On demande au premier ministre. Le problème de la lutte de la sécurité.
Mais je dis d'entrer dans la peau de nous, jeunes Congolais, futur et espoir du Congo de demain.
Merci beaucoup Jean-Paul. Vous avez dit que le premier ministre puisse revêtir la peau de la jeunesse, qu'il sente comme vous sentez, et surtout en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça doit continuer ainsi, c'est votre souci. Mais vous voulez savoir si effectivement il pourra être, il aura des moyens pour faire amener à concrétiser sa politique. Merci beaucoup. 081-899-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct en ce sujet. Bien sûr, au cours de cette émission consacrée au programme du gouvernement. Le programme a été adopté hier par l'Assemblée nationale et au même moment, le gouvernement a été investi pour cette législature. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Beaucoup de points de vue, bien sûr, mais aussi nous avons sur les antennes M. Christophe Lutundula, qui est député national de la majorité, avec qui nous partageons ensemble les préoccupations, les inquiétudes, mais aussi les espoirs par rapport à l'avenir de ce programme du gouvernement.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, ça dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capifoot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Monsieur Christophe Lutundula, je pense que vous êtes avec nous sur les antennes.
Oui.
Le deuxième groupe d'auditeurs, au-delà de ce qui a été déjà évoqué, les inquiétudes, mais aussi ceux qui gardent espoir, il y a ce problème qui revient sur la responsabilité de l'Assemblée nationale. On sait, lors de la législature passée, qu'on a beaucoup critiqué l'Assemblée nationale, qu'on n'a pas senti ce travail de contrôle, on n'a pas vu vraiment le travail de l'Assemblée nationale, que ce soit les recommandations. Il y a les auditeurs qui vous chargent encore pour dire que si c'est vous qui devez aider ce gouvernement à avancer, mais il y a aussi ces auditeurs qui ont évoqué les interférences en parlant bien sûr du gouvernement parallèle. Ils sont très inquiets pour savoir si l'actuel gouvernement sera libre de pouvoir appliquer sa politique sans interférence, sans qu'il y ait encore l'éléphant, comme on l'avait dit la fois passée, de ce concept de gouvernement parallèle. Voilà autant d'inquiétudes, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit dans la classe politique, mais que ce soit aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Votre responsabilité, vous, en tant que. Vous qui avez la charge de contrôler le gouvernement.
Ça va apporter beaucoup de problèmes. Je dirais que j'apporte ma contribution très brièvement. D'abord, la révache générale qui a été faite au gouvernement, de n'avoir pas donné des références chiffrées. Je crois que le Premier ministre en a pris bonne note.
Mm-hmm.
Nous sommes entrés directement dans l'étape de programming. Il fallait un planning. Mon groupe parlementaire, l'ARD, a proposé au premier de nous présenter un programme pluriannuel de 5 ans. Je crois que ça a été noté. Nous attendons le budgeting, c'est-à-dire en fait l'expression chiffrée de ce que le Premier ministre nous a présenté sous forme des grandes orientations.
Mm-hmm.
C'est à ce niveau-là, contrairement à ce qu'un des auditeurs a dit, il n'y a pas de contradiction avec la vision de l'État. Il y a mm-hmm. la continuité en termes des grandes orientations. Donc là, je crois que le message est bien parti sur le Premier ministre. Nous aurons des éléments, des références, des unités de mesure, et tout ce qui nous permet de procéder graduellement aux explications, étant entendu que je considère que le programme qui a été présenté, c'est un programme éducatif minimal qui doit s'améliorer, qui doit s'enrichir tout au long de la législature. On a parlé également de l'importation, oui, parce que notre croissance, qui est en moyenne au cours de cette décennie de l'ordre de 5 à 6% là, elle était suffisante pour nous permettre de couvrir tous nos besoins. Et puis c'est une croissance qui, quelque part, est importée parce qu'elle dépend largement du comportement de nos produits miniers, en particulier sur les marchés internationaux, de cours d'échange. Ce qu'il faut maintenant, c'est d'asseoir la croissance sur des fondamentaux qui, à mon sens, sont l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les infrastructures. Je crois que ce travail est en train de se faire. On a parlé aussi de l'état de droit. Je vous dis, c'est fondamental, l'état de droit, c'est-à-dire la réforme des institutions de la République, pour que soit nous offre un cadre de travail qui soit de nature à promouvoir la prospérité nationale, ça devient fondamental. La justice est un des fondamentaux, est un des piliers de l'État. Or, aujourd'hui, il n'y a pas aucun doute que vraiment notre justice pose problème. Il faut donc repenser la réforme de la justice. Vous savez, moi je suis député de l'intérieur. Il y a des zones de non-droit à l'intérieur, des zones de non-gouvernance, parce que la justice ne fonctionne pas. On vient de voir le spectacle que la Cour suprême nous a offert à deux reprises à l'occasion des élections. Donc on n'a pas le temps, on va y venir. Je crois que là vraiment, le compatriote qui a parlé de la justice n'a pas tort. Justice, armée, fonction publique, décentralisation, ce sont les fondamentaux, mais pas, me paraît-il, de la réforme de l'État. Alors maintenant, la responsabilité de l'Assemblée nationale. Oui, nous avons une responsabilité. Nous ne devons pas nous deviner. Hein, on ne peut pas se dérober plutôt à cette responsabilité-là.
Mm-hmm.
Et moi, je n'ai pas la langue de bois. Il faut dire qu'en matière de contrôle, le Parlement congolais, même placé dans son historicité, n'a pas brillé. Et j'ai pu entendre le président de l'Assemblée nationale, Lobel Minaku, mettre un accent particulier. Il a même utilisé l'expression comme quoi il faut éviter de théâtraliser le contrôle parlementaire. Donc voilà. Nous devons mm-hmm. prendre nos responsabilités. Là, je n'ai vraiment pas à dire en dehors de ce que le compatriote
voilà.
dit.
Mm-hmm.
Ils ont raison et nous devons y aller. Regardez par exemple, on parle de la lutte contre la corruption et l'impunité. Et souvent on dit, oui mais il n'y a pas de preuves. J'ai vu la législature passée, ça fait quand même 14 ans que je suis au palais de preuves. Les députés de l'opposition nous disent, le Premier ministre a fait ceci, la ministre du Portefeuille a fait ceci, mais au moment d'apporter des preuves, il n'y avait pas de preuves. Et là, le travail est compliqué.
Mmh.
Moi-même, j'ai dirigé la commission de tout là que vous connaissez.
Voilà.
Mmh. Je vous dis, j'ai eu très peu de contributions des compatriotes, pour ne pas dire aucune contribution. Tous les efforts des preuves, toute la documentation que nous avons, eue, malheureusement, nous les avons eues parce que nous sommes rendus au sein des Nations Unies.
parce que les ONG nous ont donné ça à travers l'Internet. Est-ce que c'est normal pour un peuple qui veut assainir la gestion? Aujourd'hui, il y a des bâtiments, des buildings qui sont construits dans nos villes, en particulier à Kinshasa. Qui vient voir les députés pour dire, écoutez, ces buildings-là, c'est tel responsable, c'est tel gestionnaire public qui est derrière ça? Voilà, il y a des problèmes. Et tout le monde contribue à ça. Et moi, je propose, je l'ai dit en plénière, que vous puissiez au niveau de l'Assemblée mettre en place une commission d'information, je ne dis pas tellement d'enquête, pour savoir un peu, ne fût-ce que dans la ville, tous ces bâtiments qui sont construits, c'est une bonne chose, c'est la révolution de la modernisation de notre pays, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des finances de l'État, au détriment de l'intérêt général. Nous pouvons faire ce type de vérification, vous comprenez? La sécurité, oui, il y a le problème de sécurité à l'intérieur ou d'insécurité, c'est selon. Oui, cela ne peut se résoudre, s'il vous plaît, que si la réforme de l'armée réussit, que si chacun y apporte sa contribution, parce que finalement, ceux qui terrorisent à l'Est, ceux qui violent, ce sont des Congolais, qui violent parfois les parents de leurs amis, de leurs collègues. Et il faut un effort national. Vous savez, en Europe, la sécurité est assurée d'abord par l'habitant du quartier, qui signale au chef de quartier et à l'intérieur au chef du village. Vous savez, dans mon quartier, dans notre ville, il y a un tel malfrat. Vous parlez d'une agression, d'une attaque quelque part, je vois des histoires qui se passent ici. Mais chez nous, on croit que le Premier ministre, le chef de l'État, les membres du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, surtout, ils sont des omniscients. Ils sont omniprésents, qui doivent. Je veux dire ça à nos compatriotes à travers votre radio. Il faut que nous nous impliquions tous. Ceux qui dirigent ont la plus grande responsabilité. Je n'en vous conviens pas, mais ils ne peuvent pas être partout. Je vous ai cité des cas précis et concrets. Mon expérience personnelle dans la commission du Tundula. Il faut nous aider, nous parlementaires, à bien travailler.
Voilà.
Nous ne sommes pas dans tous les ministères, nous ne sommes pas dans toutes les provinces. S'il vous plaît, aidez-nous et oubliez surtout les appartenances tribales. J'ai vu certains contrôles parlementaires qui ont échoué parce que et les parlementaires et les agents de l'État et ceux qui devaient être contrôlés, c'est les femmes d'une tribu, d'une même province, d'une même génération, d'une même promotion d'éthique. C'est tout ce qui se combat pour donner un résultat. Voilà ce que je voulais vous donner comme réaction à nos compatriotes. Chacun doit apporter sa part.
On écoute les deux derniers auditeurs de cette émission. On lit aussi quelques messages. On va revenir à vous pour conclure. Nous avons Simon qui est à Matadi et Martin qui est à Lubumbashi. Et on va aussi exploiter quelques messages reçus par à travers l'adresse page Facebook, bien sûr, des paroles aux auditeurs. On va revenir à vous pour conclure cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous avons John Kazadi qui dit ceci, tout ça c'est déjà entendu lors de l'investissement du gouvernement passé, tout le monde avait dit que c'était un bon programme, mais malheureusement à la fin de tout, les gens se sont plaints que rien n'a été fait. Fred El Niang a dit ceci, c'est comme un homme qui promet les paradis à sa femme et la femme attend, à la fin il n'y a pas de paradis. Yemba Tiumabin Thierry dit ceci, nous attendons qu'on puisse créer surtout les emplois. Emma Tiang Spagno, tout ça, ça paraît comme une comédie, si et surtout qu'il n'y a pas de réalisation sur terrain. Olivier Tilinga qui est en Boujima, il dit ceci, moi je ne crois pas tellement, je ne vois pas que ça va changer parce que nous avons beaucoup attendu. Et Jeune Mouambatit aussi en Boujima, il dit le contraire, il dit je crois en ce programme, mais il faut qu'il y ait un changement de mentalité des Congolais. Un auditeur anonyme de Kinshasa lui pense qu'il faudrait que le Premier ministre mette dans son programme la privatisation de la Société Nationale d'Électricité pour permettre à tous les Congolais de profiter de l'énergie électrique. Trésor Adranga qui est à Boutembo dit ici, à mon humble avis, je pense que la RDC possède des excellents textes, mais le problème, c'est comment le mettre en pratique. Et enfin, Gary Lituta dit demande au peuple congolais de rester calme et surtout de faire confiance au nouveau venu à la primature. Soyons seulement réalistes, nous allons juger son programme plus tard. Il vient d'être investi seulement hier, alors qu'il n'a pas encore commencé son travail. Le temps nous dira quoi. Christian Selimani, qui est à Calémie, dit ceci, tout ça, c'est bien, mais comment se fait-il que le Premier ministre garde encore le contrôle des finances. C'est une question qui a soulevé un grand débat hier dans la plénière au niveau de l'Assemblée nationale. On va vous donner la parole, Simon. Vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Vous avez une minute et demie pour votre point de vue par rapport à ce qui a été dit depuis le début de cette émission sur le programme du gouvernement.
En fait, quand nous voyons ce qui se passe actuellement dans l'Assemblée nationale, nous pensions que cette fois-ci, celle-ci, pouvait faire une rupture par rapport à l'Assemblée du passé, dans ce sens que la population puisse se retrouver dans ce qu'elle pense du gouvernement ou de la gestion du pays. Mais aujourd'hui, à suivre même l'émission, toutes les émissions, parlons-en, les émissions, paroles aux auditeurs, dialogue intercongolais, je vois que ce sont des très bons thermomètres au président de la République, au premier ministre, au président de l'Assemblée, de savoir évaluer, de savoir s'il n'y a pas un écart entre la population qui parle au travers des émissions ici et les acclameurs ou les applaudisseurs de l'Assemblée nationale. Pour terminer, je prends l'aspect rémunération. Nous sommes très contents que le Premier ministre ait parlé, 50% du budget sera utilisé pour la rémunération. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose au niveau des ventilations de ces 50%. Monsieur Pierrot, imaginez, aujourd'hui, un député a 6 000 dollars. 6 000 dollars, c'est 5 400 000 francs congolais. Si vous les divisez à ce que gagne un enseignant, donc un député paye 108 enseignants le mois. Vous voyez cet écart de salaire. Vous prenez par exemple l'équipe gouvernementale avec les cabinets. Vous prenez la présidence de la République qui est aussi budgétivore. Vous prenez les autres institutions parallèles. Vous voyez déjà le budget est consommé. La portion de 50% de rémunération est déjà consommée à 45% rien que avec les institutions politiques. Alors, il fallait équilibrer ces budgets, ventiler normalement ce que ça doit faire pour que chacun ait sa part. Pour l'enseignement, si on alloue par exemple 20% seulement, ça peut déjà résoudre beaucoup de problèmes.
Merci beaucoup Simon, parce qu'on va pas vous permettre d'aller plus loin. Je n'ai pas l'occasion d'aller plus loin parce que les temps nous pressent, mais vous insistez sur la ventilation, bien sûr, au niveau de la rémunération. 50% c'est mieux, mais il ne faudrait pas que tout soit consommé au niveau des institutions politiques. Nous allons terminer avec vous, Martin. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour, Martin.
Bonjour, M. Pierrot.
On vous écoute en une minute votre point de vue.
Ok. Mon intervention porte sur ceci concernant le programme du Premier ministre ainsi que son plan d'action, qui est très bien que nous avons entendu et applaudi. Il ne reste qu'à réaliser ça. C'est un programme qui donne beaucoup d'espoir au peuple congolais. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est à l'Assemblée nationale. Hein, l'Assemblée nationale vraiment doit savoir jouer son rôle, hein, parce que dans toutes les éditions de ces programmes, il faut qu'il y ait quand même un suivi de l'Assemblée nationale.
Le contrôle et l'évaluation, voilà. Merci.
Savoir contrôler aussi la chose publique.
Merci beaucoup, Martin. Vous êtes à Lubumbashi. Vous pensez que le programme, c'est mieux, c'est bon, mais hein, il faut encore que l'Assemblée nationale joue son rôle dans le contrôle et l'évaluation. Nous disons merci à Julie Yembe qui nous a appelé des Guangzhou en Chine. Hein. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de vous faire intervenir en direct, monsieur. Et puis William Kaoumba qui est à Kolwezi, le temps ne vous a pas permis. Merci beaucoup de vous être intéressé à parole aux auditeurs. On revient à vous, monsieur Christophe Lutundula. Nous avons 2 minutes, je crois. Vous avez suivi les uns et les autres. On peut clôturer cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans la conclusion par rapport aux inquiétudes des uns et des autres, aux espoirs? Le dernier message pour clôturer ces débats.
Bien, merci. Un petit mot pour dire qu'il n'y a pas de confusion d'un rôle et de responsabilité. Les députés ne font pas tout. Nous légiférons et nous contrôlons. J'espère que nous pourrons avoir à l'avenir une émission pédagogique. Tout ça, donc, que la population ne se trompe pas non plus en considérant qu'il suffit qu'on contrôle pour que ça aille bien. La conclusion définitive. Je me réjouis de ce que nos compatriotes ont suivi les débats à l'Assemblée nationale. Et je remarque que beaucoup d'entre eux ont pris bonne note du programme du Premier ministre. Rendez-vous à tout le monde, députés ou non, acteurs politiques ou sociaux ou non, rendez-vous sur le terrain de la réalisation, de la mise en œuvre. Et comme il dit, il faut la vigilance, il faut que chacun y apporte sa pierre. Et enfin, ni le président de la République, ni le premier ministre, ni quelqu'un d'autre de la majorité, personne n'a jamais dit que nous étions déjà au paradis et que tout a été fait. Non. Ce qui est important, c'est de commencer. On a commencé avec Joseph Kabila, nous continuons. Il y a des remarques en cours de route, il faut les intégrer et on doit continuer, persévérer dans l'effort. J'ai dit, et je termine par là, mesdames et messieurs, il n'y aura pas de miracle. Cessons de nous disputer la misère, travaillons pour créer la richesse et la prospérité commune.
Voilà. Merci, merci beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup, messieurs. Christophe Lotondola, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député national de la majorité présidentielle et président du parti politique Mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement. Nous disons aussi merci aux auditeurs qui ont été fidèles pour cette émission qui se termine par là. On va se retrouver demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Vous savez que le 12 mai de chaque année, bien sûr, on célèbre la journée internationale de l'infirmier. Nous allons en parler avec vous demain parce que vous savez, les infirmiers touchent à notre vie de tous les jours. Quand nous sommes malades, quand on va à l'hôpital, on a besoin des infirmiers. Et les sujets, la question pour le partage de demain, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir le travail des infirmiers en RDC. Un rendez-vous sur pa@radiocapi.net. Merci à Marie-Chantal Lumba, Titi Mpoutou, pour la réalisation de cette émission mise en onde par William Lungamba. Nicole Ngaka en a assuré la supervision, mais vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.
Radio Okapi.
Le journal Babel Bon.